Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 131 de la sainte sourate Al-Nisa. Notre frère Rahnaman vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle à l'homme la puissance de Dieu et le met en garde contre la mécréance.
بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي.
À Dieu, tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Craignez Dieu. Voilà ce que, très certainement, nous avons enjoint à ceux à qui, avant vous, le livre fut donné, tout comme à vous-même. Et si vous m'écroyez, eh bien, à Dieu tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et Dieu demeure au large, digne de louange.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le dimanche 24 mai 1401 du calendrier iranien, 16 octobre 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information, ensuite un commentaire politique. L'Iran promet que les frappes contre les terroristes basés en Irak se poursuivront. La présence des forces étrangères dans le Caucase est une préoccupation commune des pays de la région, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères. Téhéran a condamné les propos interventionnistes du président américain. Le rapport de la commission d'enquête du Parlement iranien sur la mort de Mahsa Amini. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran a rejeté la présence des forces étrangères dans le Caucase, affirmant qu'il s'agit d'une préoccupation commune de tous les pays de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a fait ce commentaire lors d'un appel téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais Ceyhun Bayramov. Il a ajouté que Téhéran est contre tout déploiement de forces étrangères dans la région du Caucase, indiquant que l'Iran suit la politique de principe de respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale des autres pays, en faisant référence aux différents territoriaux entre la République d'Azerbaïdjan et l'Arménie. Téhéran a appelé à un règlement pacifique des différends entre les deux pays voisins. Le ministère iranien des Affaires étrangères a réagi par la voix de son porte-parole aux allégations avancées par le président américain sur la vague d'émeutes et de troubles en Iran, les qualifiant d'ingérence et de gestes interventionnistes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que Joe Biden a ainsi porté son soutien aux émeutiers et aux actes de vandalisme, restant fidèle sans surprise à la tradition des responsables américains en ce qui concerne leur politique hostile envers l'Iran. Les déclarations opportunistes contre l'Iran sont comme vouloir pêcher en eau trouble, a déclaré Kanani, ajoutant que Joe Biden est frustré par des années d'action futiles contre l'Iran et que ce type d'allégations interventionnistes n'affaibliront pas la détermination des Iraniens. Nasser Kanani a souligné que l'Iran est assez fort pour ne pas céder aux sanctions barbares et aux menaces des États-Unis. Un rapport d'enquête du Parlement iranien a conclu que la mort de Mahsa Amini, 22 ans, n'était pas due à des coups et blessures. Selon ce rapport, la jeune femme n'a subi aucun coup ni lors de son transfert au commissariat, ni lors de sa détention. Le rapport du Parlement a appelé ceux qui ont tiré des conclusions hâtives sur la cause de la mort d'Amini à corriger leur position ou à faire face à des poursuites. Il dit que les États-Unis, Israël et leurs partisans ont profité de ces jugements hâtifs pour attiser le feu des troubles et des actes de vandalisme en Iran. Les responsables iraniens affirment que la situation est sous contrôle à la prison d'Evin à Téhéran, où un incendie s'est déclaré samedi. Selon les autorités, les pompiers ont atteint l'incendie qui s'est déclaré dans l'une des parties de la prison. Il faisait suite à une bagarre entre plusieurs prisonniers reconnus coupables de délits financiers et de vol. Des coups de feu et des explosions ont également été entendus suite à l'incident. Le pouvoir judiciaire a annoncé que dans l'incendie de la prison d'Evin, 4 prisonniers sont morts par inhalation de fumée, 70 prisonniers ont été sauvés et 61 ont été blessés, dont certains se trouvent dans un état grave. La prison d'Evin est située dans la partie nord de la capitale iranienne. Un jeune Palestinien a succombé à des blessures qu'il a subies lors d'une raid des forces d'occupation israéliennes dans la ville occupée de Salfit en Cisjordanie. Mujahid Ahmad Mohammad Davoud, 31 ans, est mort après avoir été gravement touché à la poitrine par des tirs israéliens plus tôt samedi. Il a été transporté d'urgence dans un hôpital de Ramallah où son décès a été annoncé. Les tensions sont vives dans les territoires occupés ces derniers mois. L'armée israélienne poursuit sa répression contre les Palestiniens après une série d'attaques meurtrières contre les forces du régime sioniste. Les groupes de résistance palestiniens disent que les attaques sont une réponse aux atrocités du régime de Tel Aviv. Près de 170 Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie depuis le début de cette année, 15 en octobre seulement. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Dans quelques instants, nous allons vous présenter notre commentaire politique. Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Borelli, a promis que la République islamique d'Iran poursuivrait ses opérations défensives contre les groupes terroristes séparatistes et contre-révolutionnaires, soutenus par les États-Unis et Israël, retranchés près des frontières nord-ouest de l'Iran, dans la région autonome du Kurdistan irakien. Les séparatistes et les contre-révolutionnaires, qui sont soutenus par les États-Unis et d'autres ennemis de la République islamique d'Iran, opèrent dans la région autonome du Kurdistan irakien depuis la victoire de la révolution islamique en 1979, a déclaré mardi le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Borelli, cité par l'agence de presse iranienne Tasnim. Au cours des dernières années, cependant, leurs bases sont devenues un complexe opérant contre notre sécurité nationale avec le soutien américain, a-t-il encore souligné, notant qu'actuellement, il y a 1200 bases militaires dans le nord de l'Irak, avec 3000 terroristes armés agissant contre la République islamique d'Iran. Le régime israélien a entraîné et envoyé des terroristes en Iran. Le commandant en chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a déclaré à plusieurs reprises que le régime israélien sélectionnerait un certain nombre de ces terroristes et les entraînerait avant de les envoyer de l'autre côté de la frontière pour mener des activités terroristes et déstabilisatrices sur le territoire iranien. Ils étaient utilisés comme terroristes alloués, a déclaré le général Mohammad Bagheri, soulignant qu'en fait, ces bastions terroristes étaient des bases sionistes. Et l'une de ces bases à Erbil a récemment été attaquée par la division aérospatiale du corps des gardiens de la révolution islamique. Il a également souligné que la République islamique d'Iran a averti à maintes reprises les autorités locales de la région autonome du Kurdistan irakien que Téhéran ne tolérait pas la présence, la fabrication de bombes et les activités armées des groupes terroristes le long de ses frontières, insistant sur le fait que ces opérations et d'autres encore plus importantes se poursuivront le temps qu'il faudra pour débusquer et désarmer les terroristes. La République islamique d'Iran a exhorté à plusieurs reprises les responsables kurdes irakiens à désarmer ou à expulser les groupes terroristes, a ajouté le général Bagheri, soulignant que l'échec de ses responsables à tenir leurs promesses a incité la République islamique d'Iran à affronter les groupes par lui-même en légitime défense. Le corps des gardiens de la révolution islamique a frappé les positions des groupes terroristes récemment au début de ce mois. Auparavant, le corps des gardiens de la révolution islamique avait frappé et démoli les positions des groupes terroristes et contre-révolutionnaires opérant à Erbil au mois de mai. En septembre 2021, le corps des gardiens de la révolution islamique avait lancé une contre-attaque dans le nord de l'Irak, détruisant 4 bases appartenant au groupe terroriste soutenu par les puissances étrangères. Les bases américaines en Irak sont constamment sous étroite surveillance iranienne. Ailleurs dans ses remarques, le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a déclaré que la République islamique d'Iran continuer de garder sous surveillance les bases américaines à travers l'Irak. Citant une récente affirmation de responsables américains concernant l'abattage présumé d'un drone iranien au-dessus d'Erbil, le général Mohammad Bagheri a réitéré « Nous savons où se trouvent les bases américaines à travers l'Irak, ainsi que le nombre des forces qu'elles abritent et la nature de leurs activités. » Il a ensuite averti « À compter d'aujourd'hui, si les Américains prennent des mesures contre nos drones, nous prendrons certainement des positions réactives et nous nous réservons le droit de répondre à leurs récentes actions. » Le général Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a également déclaré que la République islamique d'Iran avait notifié à ses voisins que si une action était entreprise contre sa sécurité nationale dans les bases américaines installées sur leurs territoires respectifs, l'Iran exercerait sûrement des représailles contre ces bases.
Four. Bonjour à tous et bienvenue sur les plateaux de Presse TV à Téhéran. Aujourd'hui, un sujet, le sujet de l'énergie, encore une fois, puisque ces derniers mois, tout tourne autour de ça, mais surtout, en fait, du rapprochement entre le Maghreb et l'Europe. Nous avons, comme d'habitude, préparé un reportage pour notre débat. Vous connaissez le principe, un reportage, les invités qui viennent juste après, et donc des questions-réponses obtenues grâce à ce débat. Donc tout de suite, je vous propose donc de regarder le reportage que nous avons préparé sur le sujet de l'énergie de l'Union européenne et de l'Afrique du Nord.
L'UE cherche à renforcer son commerce de gaz avec l'Algérie. Le commissaire européen à l'énergie, Kadri Simpson, se rend à Alger pour co-présider la 4e réunion annuelle de haut niveau du dialogue UE-Algérie sur l'énergie, tandis que le Premier ministre français rencontre son homologue algérien dans le pays. Alors que la guerre en Europe de l'Est continue de s'intensifier et que l'inflation des prix des carburants et des matières premières continue d'augmenter, les 27 États membres de l'UE poursuivent leurs efforts pour déconnecter l'énergie de la Russie de Vladimir Poutine. C'est ce que reflète le plan Repower EU adopté par la Commission européenne au début de l'été, qui appelle à travailler avec des partenaires internationaux sur des partenariats à long terme et mutuellement bénéfiques qui stimulent les énergies renouvelables et augmente l'efficacité énergétique. En témoigne la relance du dialogue énergétique de l'UE avec l'Algérie, qui devrait devenir le partenaire gazier du continent pour contrebalancer la dépendance vis-à-vis de Moscou. Dans cette optique, la commissaire européenne à l'énergie, Kadri Simpson, s'est rendue lundi à Alger, la capitale algérienne, où elle restera jusqu'à mardi pour renforcer la relation énergétique et revoir l'accord de partenariat stratégique qui les unit depuis 2013. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la Commission européenne pour diversifier l'approvisionnement énergétique de l'UE au-delà des combustibles fossiles russes et pour renforcer les relations énergétiques avec des partenaires fiables, a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué. Ces efforts coïncident avec la 4e réunion annuelle du haut niveau du dialogue énergétique Algérie-UE, co-présidée par la commissaire européenne et le ministre algérien de l'énergie Mohamed Arkab, qui devrait aborder des questions telles que le développement des investissements pour l'exploration et l'extraction des hydrocarbures, les nouvelles perspectives de partenariat dans les industries du gaz et de l'hydrogène et la coopération dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Tout cela se passe alors que le pays d'Afrique du Nord, 10e producteur mondial de gaz et grand exportateur vers l'Europe, conclut de nouveaux contrats avec ses principaux acheteurs d'énergie, l'Italie d'abord, l'Espagne ensuite. Pendant ce temps, le Premier ministre français Elisabeth Borne rencontre son homologue algérien Ayman Ben Abderrahman pour ouvrir officiellement un forum d'affaires franco-algérien qui espère ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre Alger et Paris afin de mettre fin à plusieurs mois de tensions diplomatiques.
Voilà notre reportage fini. Maintenant, bienvenue à nos invités. Monsieur Luc Michel, géopoliticien de Bruxelles, bienvenue sur notre plateau. Ensuite, notre deuxième invité, M. Arnaud Develet, juriste international. Bonjour, Monsieur Maître Arnaud Develet, bienvenue également sur notre plateau.
Oui, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe, téléspectateurs, et bonjour à M. Michel.
Merci à vous. Alors, vous avez deviné, hein, le sujet tourne encore sur l'énergie. Hein, ces six derniers mois, on ne parle que de ça. Mais ces problèmes et puis ces réseaux ont commencé il y a 10 ans, puisqu'il y a 10 ans, l'Union européenne envisageait en fait d'inclure le Maghreb à l'Union européenne. Une des raisons, bien entendu, a été l'énergie avec l'Algérie, mais pas seulement, à l'immigration, au fait que la population européenne est vieillissante. Il y avait des solutions qui avaient été apportées à l'Union européenne il y a 10 ans. Aujourd'hui, 10 ans après, on voit l'Union européenne faire des pieds et des mains pour aller en Algérie pour des raisons énergétiques, mais pas seulement. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Maître de Velay?
Je pense que l'Union européenne vit un peu dans sa bulle et prétend, si je puis dire, faire abstraction des évolutions géopolitiques des 10 dernières années, pour le coup, où le Maghreb est une région qui n'est certainement pas la moins importante pour l'Union européenne, a subi des événements qui l'ont complètement reconfiguré et qui, pour ces pays qui encore restaient, si je puis dire, dans leur configuration d'alors, il y a dû y avoir des ajustements politiques, géostratégiques, qui font que maintenant, en dialogue, alors que ce soit le dialogue à l'échelle de l'Union européenne ou le dialogue à l'échelle bilatérale entre la France et l'Algérie, pour ne citer qu'elle, fait que il y a beaucoup de méfiance, en tout cas, de la part d'Alger. Je pense qu'il convient aussi de prendre en compte que Alger se voit un peu comme une tête de pont de l'axe de la résistance dans la région, qu'elle est sous pression quelque part au travers des accords dits d'Abraham entre le Maroc et l'entité sioniste d'un côté, avec cette construction donc de bases de renseignement, d'écoute, de bases de drones aussi. Donc on peut imaginer que c'est certainement pas quelque chose qui va œuvrer au bon déroulement des relations bilatérales entre Rabat et Alger. De l'autre côté, vous avez la Libye qui se dirigeait vers un cycle conformément à la déclaration de Berlin où il devait y avoir des élections présidentielles suivies d'élections parlementaires pour des raisons qui restent encore un peu mystérieuses et obscures, cela n'a pas eu lieu. Et donc on assiste même quelque part à une recrudescence des factions en présence en Libye, ce qui crée par exemple un environnement d'autant plus instable. Et dans ce contexte-là, c'est difficile d'imaginer que l'Europe, et la France en particulier, puisse quelque part arriver avec, je parle de la première ministre Elisabeth Borne, avec moitié du gouvernement dans ses bagages, en espérant quelque part, je cite, reprendre un partenariat de bon aloi entre les deux pays, mais en faisant fi encore une fois d'un monde où au niveau géopolitique, la situation évolue extrêmement rapidement, quoi.
Il serait arrivé ce genre d'action et de réaction de l'Union européenne et du gouvernement français, puisque ce sont les deux enjeux de cette semaine. Vous pensez que ça arrive 10 ans trop tard?
Je pense surtout que, encore une fois, ça fait fi des réajustements géopolitiques dont le Maghreb n'est pas déconnecté. Intégrer énergétique, partenariat en fonction aussi, dirais-je, des grands axes. Et ce n'est dans ce que l'Algérie, en ce qui concerne peut-être pas les capitales européennes qui sont d'offusquer un petit peu leur. On peut penser qu'il y a qui ont un problème de mandager, qui considèrent que le gouvernement n'est pas, si je puis dire, le doux. Ne montre pas la coopération, et ce sur tout un tas de. Donc, là, d'ailleurs, l'un de ces dossiers, c'est sa non-reconnaissance, par exemple, qu'on le veuille ou non, quand même un marqueur essentiel entre et des pays qui adhèrent à ces principes.
Merci, Maître.
Je pense beaucoup de pour pas grand-chose. Je pense qu'Alger joue la carte de la diplomatie au sens bien compris du terme, qu'il pourra y avoir éventuellement des accords sur des issues, sur des questions, des dossiers ad hoc. De là à imaginer quelque chose comme Nicolas Sarkozy évoquait à l'époque avec cette union euro-méditerranéenne, je pense qu'on est dans un conte pour enfants.
L'autre question qui avait été... qui avait été envisagé cette semaine, c'est les propos de Mme Borne concernant les visas. Cela encore, on peut dire que c'est une vision qui date de Mathusalem, parce qu'à l'heure actuelle, on sait qu'en France, il y a beaucoup d'enfants d'immigrants qui sont retournés sur les terrains de leurs parents, c'est-à-dire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, retournent donc dans leur pays d'origine, on va dire, bien que la France est leur pays, techniquement, parce qu'ils sont complètement français, mais il y a une sorte de considération des visas qui date d'il y a 20 ans, 30 ans, là où il y a eu un flux immigrant d'Afrique du Nord important, mais que là, ça n'est plus vraiment le cas. Donc, encore une fois, est-ce que ça ne serait pas un sujet de parler de politique pour un petit peu semer l'embrouille, en fait, ne pas réfléchir sur des questions extrêmement sérieuses, parce que est-ce que les visas, est-ce que l'Afrique du Nord, à l'heure actuelle, est vraiment à la recherche de visas, vu qu'il y a un système inverse à l'heure actuelle en France, où beaucoup d'enfants d'immigrants partent de la France parce qu'ils en ont marre de ne pas être traités comme des vrais Français.
Bah écoutez, à votre question, je rappellerai juste à nos auditeurs que l'Union européenne a le taux de croissance économique le plus anémique, et cela ne date pas d'hier, ça remonte à au moins une vingtaine d'années. Cet assemblage un peu forcé, cette espèce de veto, n'est pas du tout économiquement conçu pour permettre aux différentes expressions économiques qui caractérisent les États membres de pouvoir prospérer, de pouvoir faciliter l'exportation et donc de pouvoir créer les conditions nécessaires qui créeraient des emplois et ou des filières et donc serait un lieu qui serait attractif pour les gens de manière générale, à moins que vous veniez d'un pays en guerre où là, bon, effectivement, l'Europe semblait un havre de paix, mais pour les gens qui ont beaucoup de diplômes, et il y a beaucoup de gens du Maghreb qui sont extrêmement diplômés, l'Europe apparaît de moins en moins comme, si je puis dire, l'Eldorado. Et j'ajouterais à ça que la situation sur un plan géostratégique et l'implication plus ou moins avérée des pays d'Europe dans l'exacerbation du conflit en Ukraine, avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau juridique, puisque cela fait d'eux des co-belligérants essentiellement, fait que beaucoup d'entre eux se disent « mais on risquerait de se retrouver ciblés pour peu que la Russie n'ait pas les dirigeants qu'elle a, à savoir des gens qui réfléchissent quand même aux conséquences et qui ne se laissent pas, qui ne succombent pas aux provocations. » On pourrait penser que pour beaucoup d'entre eux, en tout cas, la situation fait que au niveau même de la sécurité, l'Europe devient de plus en plus un endroit où on peut imaginer que ces vieux démons vont ressurgir et qu'un conflit à l'échelle continentale pourrait avoir lieu. Et ça, beaucoup de je parle de Français, pour le coup, de Français récents, commencent à réaliser ça. Et si vous lisez les discussions sur les réseaux de la diaspora algérienne, marocaine, tunisienne qui vit en France, effectivement, vous aviez raison de souligner, beaucoup d'entre eux, surtout parmi les plus jeunes, considèrent sérieusement, comme ils disent eux-mêmes, rentrer au bled. Hein.
Ouais, moins, et d'ailleurs, quand on reparle de la situation ukrainienne, il y a ces derniers jours, surtout la semaine dernière, le fait que le pont de Crimée avait été partiellement détruit. Les images étaient catastrophiques, mais d'après mes informations, hier soir, le pont s'est réouvert, donc il est redevenu disponible aux véhicules. Donc, encore une fois, c'était une exagération de la situation, bien que Poutine l'ait pris extrêmement sérieusement, hein, puisqu'il a reconvoqué tous ceux qui doivent prendre une décision sur le terrain ukrainien pour répondre à ce genre d'actes de guerre, extrêmement importante, parce que sans ce pont, énormément de personnes vivent sous les besoins de la Russie. Donc même humainement parlant, c'est s'en prendre à des choses matérielles extrêmement importantes comme le chauffage, le charbon, etc. C'est quand même pas seulement un pont stratégique pour la Russie, c'est également pour le peuple de Crimée une situation qui aurait pu être catastrophique si ce pont avait réellement été détruit.
Oui, absolument, mais nonobstant la nature des dégâts, et vous l'avez souligné, le trafic a repris essentiellement le même jour, hein, à 20h. Bon, il y aura des travaux nécessaires, ça devrait prendre pas plus d'un mois, d'après ce que j'ai pu comprendre. Mais c'est surtout les implications, si vous voulez, puisque c'est une infrastructure avant tout qui dessert, comme vous l'avez souligné encore une fois, les besoins des civils, et donc qui n'a pas du tout cette dimension militaire. qui justifierait ce genre d'opération. Et ce n'est pas, malheureusement, la première, ni j'ai bien peur la dernière fois, que Kiev franchit de toutes les règles, puisqu'elle dit, elle prétend avoir été victime d'une agression, donc ça veut dire qu'on se trouve dans un conflit traditionnel, juridiquement. Et donc il y a des règles qui s'appliquent, les conventions de Genève, pour ne citer qu'elles déjà.
Vous-même, vous l'avez dit, l'Afrique, et surtout l'Afrique du Nord, regarde donc ce qui s'y passe. Donc ce genre d'acte, forcément, rentre en jeu dans ce genre de coopération voulue par l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez que l'Algérie pourrait dire à l'Union européenne, bon, outre la France, qui ont quand même des liens importants, donc il y a quand même une coopération économique qui existe depuis très longtemps, donc ce n'est pas quelque chose qui va disparaître, mais par rapport au futur de l'Union européenne et de l'Algérie, qui un peu va déterminer également du Maghreb lui-même. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver dans les jours prochains? L'Algérie va faire un pas vers l'Union européenne ou va rester en stand-by en attendant de voir les évolutions économiques?
Écoutez, si vous partez du principe que l'Union européenne, en se coupant du gaz russe, essentiellement n'a pu substituer ses manques d'approvisionnement que par, jusqu'à présent en tout cas, elle ne s'est pas encore mise en place, puisqu'il faut construire les méthaniers, les ports pour pouvoir disposer des infrastructures nécessaires pour regazéifier le gaz de schiste américain. Ce fameux gaz de schiste américain est vendu pour 4 fois le prix et pour seulement 10% des besoins dont l'Europe avait besoin, si on fait abstraction donc des parts de gaz russe. Donc l'Algérie forcément va essayer de c'est un état des intérêts, pas des émotions, donc ils vont essayer de voir si il y a possibilité de faire entrer des devises, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'ils ont les capacités pour pouvoir fournir l'Union européenne au sens large? On a vu durant la visite d'Emmanuel Macron au mois d'août dernier que les Italiens étaient passés juste avant et leur avaient damé le pion, si je puis dire. Donc, il n'y avait pas de gaz. Donc, c'est une situation où c'est difficile d'imaginer que l'Algérie puisse, encore une fois, enfin, en tout cas, en elle-même, subvenir aux besoins des Européens.
Est-ce qu'ils vont seulement accepter? C'est ça la question, parce qu'entre il y a 10 ans, oui, quand on envisageait de faire venir le Maghreb en Union européenne, en disant que c'était plus justifié que même la Turquie, ou même que l'Est de la Russie, là, à l'heure actuelle, 10 ans après, l'Union africaine, c'est-à-dire les pays d'État africains, souhaitent s'unir. On voit des mouvements partout, que ce soit le nord de l'Afrique ou le sud de l'Afrique, l'Égypte qui se met d'accord avec des universités dans le sud de l'Afrique, le Maroc, pareil, il y a quand même des coopérations qui se font pour l'instant d'un point de vue universitaire sur toute l'Union africaine. Donc, est-ce que l'Algérie va regarder de ce côté-là du monde ou de l'autre côté du monde, qui est peut-être éventuellement l'avenir, finalement, au niveau international, puisqu'on dit que l'Asie s'est fait, le véritable avenir n'étant pas le continent africain?
Si, si, absolument. Et vous faites bien de le souligner, puisqu'on voit que le continent africain, au travers de ses institutions, s'efforce de prendre maintenant de plus en plus la position que le colonialisme à papa, c'est fini, quoi. Et que dans ce contexte-là, si on assiste à des pressions sur certains de ces pays pour, par exemple, condamner, je cite, l'agression russe en Ukraine, 82% de la population mondiale, si on ajoute les pays d'Asie, se sont abstenus de ces résolutions. Donc, quelque part, cette soi-disant communauté internationale dont on nous bassine depuis au moins 25 ans maintenant, se réduit à une quinzaine de pays qui représentent 700 millions de personnes. Et dans ce contexte-là, qui en plus de ça, si on prend encore une fois l'Union européenne, ne produit rien, n'exporte rien, à l'exception de l'Allemagne, mais l'Allemagne va se retrouver confrontée à une récession très très importante. D'ailleurs, les entreprises, beaucoup d'entreprises allemandes sont en train maintenant de déménager leurs sièges, leurs opérations, ironiquement aux États-Unis, parce que c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que les États-Unis sont, de par leur influence et leur façon d'imposer des politiques et des positionnements politiques à Bruxelles, sont en train de forcer l'Europe à se désindustrialiser et à devenir complètement vassalisée aux États-Unis, quelque part. Donc, si j'étais âgé, ça ne m'empêcherait pas de regarder, encore une fois, dossier par dossier, parce que c'est la façon de faire, de gérer la politique et la diplomatie de manière générale. Mais in fine, il ne faut pas oublier qu'il y a des grands axes qui sont en train de se redessiner, qui quelque part ne sont pas comparables à ceux de l'ancienne guerre froide, mais où on voit effectivement un bloc atlantiste qui se retrouve acculé, qui se retrouve pour la première fois depuis au moins 200 ans, certains disent 500 ans, dans une situation qui n'est pas situation de domination, parce que ce sont des rapports de domination tout cela.
Et
Et au contraire,
concernant,
il y a...
excusez-moi de vous interrompre, c'est un peu pour conclure, concernant le comportement de Madame Borne en arrivant en Algérie, et beaucoup de gens ont critiqué encore une fois son discours, la manière, surtout les termes employés, c'est pas forcément l'intérieur de son discours qui est intéressant, mais surtout la manière dont ça s'est exprimé. Beaucoup de gens se sont retrouvés fâchés ou peu satisfaits en tout cas de sa manière de s'exprimer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en fait? Est-ce que c'est encore une fois la même situation que ce que vous venez de décrire, une vieille manière de s'exprimer vis-à-vis d'une ancienne colonie?
Oui, tout à fait. On s'aperçoit que les Européens, en tout cas les Français en particulier, n'ont pas changé de logiciel. Ils ne semblent pas réaliser que le monde est en train d'évoluer à une vitesse vertigineuse et que leurs anciennes colonies mènent leur propre barque. Et si cela veut dire, quelque part, rappeler certaines vérités qui dérangent, eh bien, voilà, comment voulez-vous avoir quelque part des relations en substance qui s'inscrivent dans le long terme si, en ce qui concerne les termes de référence, vous êtes toujours obligé de quelque part remettre les dirigeants français dans le bon sens par rapport au choix des mots et à la perception des rapports bilatéraux. De toute évidence, l'Algérie n'a certainement pas besoin de la France autant que la France a besoin de l'Algérie, ne serait-ce que sur le volet énergétique. Donc, c'est quelque chose qui va prendre du temps, mais qui doit quelque part rentrer dans le nouveau logiciel européen et français en particulier.
Merci Maître Develay, je vous remercie d'avoir participé à ce débat donc, qui concernait donc l'Algérie et son futur et la coopération qui pourrait y avoir encore ou exister encore avec l'Union européenne et la France. C'est ici que nous, notre débat se finit. Je vous remercie de nous avoir suivis. Retrouvez-nous pour un prochain sujet dans les prochains jours et je vous dis au revoir à partir des studios de Téhéran.
Afrique économique. Au Sénégal, les nouveaux députés se sont retrouvés vendredi 14 octobre pour l'ouverture de la session ordinaire unique 2022-2023. La configuration de l'hémicycle est inédite depuis les législatives de fin juillet. Majorité et opposition sont au coude à coude. Après une rentrée parlementaire très houleuse le mois dernier, la séance, très brève, s'est déroulée dans le calme. Le nouveau président de l'Assemblée nationale a appelé les députés au dialogue et à la sérénité. Après l'épisode malheureux du 12 septembre dernier, nous sommes surveillés, attendus par le peuple sénégalais, a affirmé le président de l'Assemblée. Amadou Map Diop a également acté la décision d'Aminata Touré d'être députée non inscrite. J'ai reçu de notre collègue Aminata Touré sa lettre de démission du groupe parlementaire Beno Bok Yakar. Avec ce départ, la majorité présidentielle est fragilisée, mais nous sommes sereins, assure la députée Sira Diaye de la coalition Beno Bok Yakar. Pour ce qui est de cette démission, nous prenons acte. Je pense que le plus important aujourd'hui est de se concentrer sur le budget. Le groupe Benoyok-Gaikar reste solide, uni. Nous espérons des débats techniques, de qualité et de haut niveau parce que c'est ce que les Sénégalais attendent de nous. Cap désormais donc sur le projet de loi de budget 2022-2023 et l'opposition compte bien se faire entendre, affirme Babacar Abba Baye, député de la coalition Yewi Askanwi. Pour la première fois, vous avez un budget avec des recettes qu'en escompte du gaz. Donc ce sera un budget de débat. Ça va être frontal. On n'est pas là pour se jeter des fleurs ou des mots doux. Mais c'est ça le Sénégal aujourd'hui. On est à un tournant, à un basculement. On n'est pas là pour bloquer quoi qu'en soit. Le pays doit changer. Il faut qu'on dise des vérités et qu'on prenne les bonnes décisions. Thank you. Afrique, la production d'engrais reste encore en décalage des besoins. Si pour faire face à ces besoins, la région se tourne principalement vers les importations, elle est confrontée depuis peu aux récentes perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Au Maroc, l'Office chérifien des phosphates fournira en 2023 4 millions de tonnes d'engrais dans le cadre de son programme d'approvisionnement de l'Afrique. C'est ce qu'a annoncé Mustapha Terab, président directeur général du groupe, le mercredi 12 octobre. Selon le responsable, ce volume représente près du double du stock consacré annuellement par l'OCP au continent et plus du quart des prévisions de production globale d'engrais du groupe qui sont attendues à près de 15 millions de tonnes l'année prochaine. En outre, le programme d'approvisionnement comprendra un volet consacré à la formation et au renforcement des capacités des producteurs et qui sera mise en œuvre en collaboration avec des partenaires financiers régionaux et internationaux. L'initiative aidera environ 44 millions d'agriculteurs à travers 35 pays, y compris le Maroc, à optimiser leur production agricole. Dans un contexte international marqué par la perturbation des chaînes d'approvisionnement des engrais et la flambée des cours des intrants agricoles, cette intervention de l'OCP vise notamment à assurer la disponibilité de l'intrant sur le marché africain et prévenir les pénuries. Elle s'inscrit en outre dans le cadre d'une stratégie du groupe visant à accroître sa part de marché sur le continent. Pour rappel, l'Afrique importe actuellement 56% de ses besoins en engrais de l'étranger. Le continent affiche un déficit annuel d'approvisionnement estimé à 2 millions de tonnes, selon la Banque africaine de développement ou BAD. Bien que le coût de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques reste parmi les sources d'énergie renouvelables les moins chères au monde, l'Afrique ne compte aujourd'hui qu'une capacité installée de 38 gigawatts. L'Afrique possède le plus grand potentiel hydroélectrique inexploité au monde, selon un rapport publié en juin 2022 par l'Association internationale de l'hydroélectricité, une organisation à but non lucratif fondée sur l'initiative de l'UNESCO pour promouvoir le développement durable à travers l'hydroélectricité. Ce potentiel est estimé à 474 gigawatts contre 73 gigawatts en Europe, 275 gigawatts en Amérique du Sud, 387 gigawatts en Amérique du Nord et centrale, 359 gigawatts en Asie de l'Est et Asie-Pacifique et 355 gigawatts en Asie du Sud et centrale. Le potentiel hydroélectrique de l'Afrique dépasse la demande actuelle et à moyen terme du continent, souligne l'association, indiquant que le coût de l'électricité produite par les centrales hydroélectriques reste parmi les sources d'énergie renouvelable les moins chères au monde. Intitulé « Hydropower Status Report 2022 », le rapport révèle également que le continent africain ne dispose actuellement que d'une capacité hydroélectrique installée de 38 gigawatts contre 501 gigawatts en Asie de l'Est et Asie-Pacifique, 254 gigawatts en Europe, 205 gigawatts en Amérique du Nord et centrale, 177 gigawatts en Amérique du Sud et 150 gigawatts en Asie du Sud et centrale. Le pipeline de projets hydroélectriques en Afrique, qui désigne les centrales en cours de construction, ainsi que les projets annoncés qui sont encore dans des stades préalables à la construction, porte quant à lui sur une capacité de 118 gigawatts. En ce qui concerne les nouvelles capacités installées en 2022 dans le monde, l'IHA précise que 26 gigawatts se sont ajoutés aux 1334 gigawatts existants durant l'année écoulée. Sur cette capacité, 4,7 gigawatts sont issus de la technique du pompage-turbinage. Thank you. Ethiopian Airlines finalise la conversion d'un avion de ligne en cargo. La récente crise sanitaire a fait exploser la demande de fret aérien en Afrique, notamment avec le développement du commerce en ligne. Cela implique la nécessité pour les compagnies aériennes africaines d'augmenter leur capacité d'expédition. Ethiopian Airlines a annoncé l'achèvement de la conversion en avion cargo de l'un de ses trois Boeing 767-300. La reconfiguration s'est opérée dans les installations de MRO du transporteur localisé à Addis Abeba avec l'assistance technique du groupe Israel Aerospace Industries, l'un des leaders mondiaux dans le domaine. Selon le communiqué de la compagnie publié le 12 octobre 2022, l'opération lui permettra de remplacer les vieux avions de ligne et d'augmenter ses capacités d'expédition de fret. En plus de nos dernières flottes de cargo, les avions B767 convertis augmenteront nos destinations de fret locales et internationales avec plus de capacités de chargement. Nous avons travaillé à l'expansion de nos opérations de fret, alors que la demande devrait augmenter avec l'établissement d'un centre de commerce électronique à Addis Abeba, a expliqué Meswin Tassé, le PDG. Un second aéronef en cours de conversion devrait être prêt d'ici quelques mois. En pleine crise sanitaire, Ethiopian a été l'une des rares compagnies restant en activité. Elle a expédié vaccins, équipements de protection individuelle et autres à travers le monde, ce qui a développé sa branche fret. La compagnie a depuis lors agrandi son réseau de distribution, couvrant désormais plus de 130 destinations dans le monde entier, avec une capacité de soute et 67 services de fret dédiés. Entre les facteurs impayés de l'État, son unique actionnaire, et la concurrence des opérateurs privés, qui s'intensifie, le postier public du Cameroun peine à sortir la tête de l'eau. Le mercredi 12 octobre, sous l'égide de la ministre des Postes et Télécoms, Minette Libom-Li-Li-Keng, le directeur général de la Cameroun Postal Service, Pierre Kaldak, a signé une convention de partenariat avec 18 entreprises privées. Offrant des services de messagerie dans le pays, d'autres opérateurs suivront dans une seconde vague, portant le nombre de signataires à 33. Parmi les premiers signataires, l'on trouve des multinationales telles qu'UPS ou encore Bolloré, des agences de transport interurbain desservant les villes du pays, ou encore des opérateurs locaux de la messagerie tels que MTA ou encore Afrilight Logistique. Dans les mécanismes de compensation du service postal universel assuré par la Composte sur le territoire national, l'État a concédé à la Composte l'exclusivité des services réservés ci-après, la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution des envois de correspondance nationaux et internationaux pour le courrier ordinaire dont le poids n'excède pas 500 grammes, le courrier accéléré national n'excède pas 100 grammes, consciente des exigences liées à l'accomplissement de ses missions de service public universel et en vue de la réalisation efficiente de ses missions de service public, la Composte peut faire exécuter, sous convention particulière avec d'autres opérateurs, tout ou partie de certaines activités relevant du domaine réservé, peut-on lire dans la note de présentation de la convention du partenariat qui lie désormais les signataires. En clair, à compter du 12 octobre, l'entreprise postale publique camerounaise concède officiellement aux 18 opérateurs privés subventionnés les services de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution des envois de correspondance nationaux et internationaux pour le courrier ordinaire dont le poids n'excède pas 500 grammes et le courrier accéléré national dont le poids n'excède pas 100 grammes.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres sur la fréquence de 6135 kHz en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.